Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. C'est inédit, peut-être même historique. Pendant une guerre, des belligérants se poursuivent mutuellement devant des tribunaux arbitraux pour des questions d'investissement. Il s'agit essentiellement de la guerre russo-ukrainienne. Et, surprise, la justice traditionnelle prend des décisions très étonnantes qui aboutissent à politiser le droit. Pour en parler, je reçois Fabrizio Marella, professeur de droit international des affaires à l'Université de Venise et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Pedon intitulé « Arbitrage transnational d'investissement et conflits armés ». Bonjour Fabrizio Marella.
Bonjour Ali.
Allez, en un mot, c'est quoi les tribunaux arbitraux ?
Disons, l'arbitrage, c'est une justice privée. Ça peut, normalement, c'est la justice qu'on utilise en droit du commerce international, pour les contrats du commerce international. Et plus récemment, on l'a utilisé aussi pour, les différends entre les investisseurs privés étrangers et les États. Et c'est ça qui rentre en jeu. Les arbitres, ce ne sont pas des magistrats.
Ah bon ?
Les arbitres sont des experts du droit international. Parfois, ils sont des professeurs. Autrefois, ils sont des avocats avec une certaine expertise en droit international. Mais ce sont des juges privés.
Qui les nomme ?
Les partis.
Ah, les partis en conflit.
Les partis en conflit, lorsque les deux partis participent.
S'accordent
et participent.
Ouais.
Mais parfois, si une des parties ne participe pas, comme dans plusieurs affaires dans ces contextes, et alors il y aura une autorité de nomination, la Cour permanente d'arbitrage à La Haye, ou d'autres, institutions qui administrent l'arbitrage, comme on dit.
D'accord. Alors, c'est historique que pendant une guerre, des investisseurs s'attaquent mutuellement devant ces tribunaux arbitraux.
C'est la première fois qu'on voit ça. Normalement, pendant une guerre, un conflit armé international au sens technique, il y a, les armées dans un champ de bataille. Mais il y a aussi en parallèle une guerre économique, évidemment, qui, maintenant, on peut voir entre des investisseurs d'un État contre l'autre État. Ce qui est un peu bizarre, parce que dans le passé, on pensait que même les traités économiques n'avaient pas application pendant un conflit armé. Mais la Commission du droit international de l'ONU en 2011 a élaboré des articles sur les effets de la guerre sur les traités. Il pensait principalement aux traités d'amitié, commerce et navigation, qui étaient assez classiques, mais qui ne prévoyaient pas des mécanismes d'arbitrage mixte, comme on l'appelle, qui permettaient à un investisseur privé d'attaquer un État. Et un des rapporteurs, le professeur Brownlee, très connu, il a expressément dit que les traités bilatéraux en matière d'investissement rentrent dans ces catégories. Donc, pendant une guerre à haute intensité, on peut avoir des traités bilatéraux sur les investissements qui s'appliquent, ce qui explique pourquoi des investisseurs privés peuvent attaquer l'autre État qui est en guerre avec le sien.
Alors, dans votre livre qui vient de sortir, vous prenez plusieurs exemples dans différents pays, mais évidemment, il y a un cœur qui est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a un traité entre les deux pays, un traité bilatéral d'investissement, qui a été signé en 1998, on est d'accord. Et donc, essentiellement, les Ukrainiens ont attaqué devant les tribunaux arbitraux des Russes à partir de l'annexion 2014 de la Crimée. On parle de quels investissements, par exemple ?
Il y en a plusieurs. Disons, pas toutes ces sentences arbitrales ont été publiées, mais les peu de sentences, ils sont une dizaine qui ont été publiées, montrent bien un certain panorama. Il y a, par exemple, des banques, des distributeurs d'essence, donc de gros investissements qui sont d'une valeur considérable et qui, évidemment, pendant une guerre interétatique à haute intensité, ont été endommagés. Et cela a permis aux investisseurs ukrainiens d'attaquer la Fédération des Russies devant l'arbitrage. Et vice-versa, on trouve même maintenant des investisseurs russes qui attaquent l'Ukraine, parce que aussi l'Ukraine a occupé la Kursk, certaines zones, pour la non-application ou la mauvaise application du traité bilatéral sur les investissements.
Alors, juste une parenthèse, ils sont où ces tribunaux arbitraux dans le monde, géographiquement ?
Et disons, les sièges de l'arbitrage est décidé par les parties, mais disons, il y a des sièges qui sont plus, disons, importants des autres, parce qu'ils ont une législation plus favorable. Paris, Genève, La Haye, par exemple. Et donc, ce sont ces trois sièges.
Et donc, c'est devant ces trois principaux sièges que, ou des Ukrainiens investisseurs, ou des Russes investisseurs, ont poursuivi soit l'État russe, soit l'État ukrainien. On est d'accord. Sur ce cas-là, donc, les juges vont s'appuyer sur le traité bilatéral d'investissement. On est d'accord.
Exactement. Et là, c'est une question très débattue dans la doctrine du droit de l'arbitrage international. Est-ce que les arbitres doivent appliquer simplement les traités bilatéraux ou bien appliquer le droit international tout entier?
Voilà.
Et évidemment, surtout en Europe continentale, on pense que c'est le droit international tout entier qui s'applique. Mais évidemment, certaines visions, disons, surtout des common law, portent à penser que seulement les traités bilatéraux s'appliquent. Mais alors, dans un contexte de guerre, ça, c'est vraiment incroyable.
Et dans ce contexte-là, Russe-Ukraine, les juges arbitraux ont considéré qu'il fallait considérer les territoires annexés, Ukraine, Crimée et Donbass et autres, comme un territoire étranger.
Voilà. En fait, le premier problème, c'est la compétence des arbitres. Et la compétence des arbitres, évidemment, doit être vérifiée pour ce qui concerne le champ d'application territorial. Et évidemment, pendant une guerre, il y a des opérations militaires, il y a des théâtres de guerre, il y a des territoires qui sont occupés. Donc si on évite d'appliquer les droits internationaux humanitaires dans ces cas-là, on trouve évidemment des situations inédites pour l'application de ces traités bilatéraux. Donc on arrive à appliquer, c'est l'idée des arbitres, ces traités bilatéraux qui étaient, il faut le souligner, conclus en temps de paix, ouais. dans une situation de guerre où il y a évidemment des opérations
militaires. Et
donc,
ils considèrent que le Donbass, la Crimée sont des territoires étrangers. Et ils appliquent le traité.
Ça, c'est passionnant parce que la question préliminaire serait justement d'établir si ou non la Crimée, le Donbass sont des territoires ukrainiens ou russes. Le droit international humanitaire a une réponse claire.
Oui,
ils ne sont pas des territoires russes,
ukrainien.
C'est l'Ukraine.
Ouais.
Donc si on est des investisseurs en Crimée et on est ukrainien, on a investi en Ukraine, même si on est occupé par la Russie, même si on est dans les Donbass. Mais certains arbitres, pas tous, mais certains arbitres, évidemment, pour éviter d'aborder ces questions, ils ont dit simplement on ne va pas traiter la question de la souveraineté sur les territoires occupés, on applique simplement les traités bilatéraux. C'est un peu lourd.
Est-ce que c'est là qu'on politise la question du droit ?
C'est possible, parce que là, évidemment, on fait des choix qui sont...
On considère que le droit international, que le droit humanitaire ne compte pas. Ce qui compte, c'est le traité bilatéral d'investissement.
Qui a été conclu en temps de paix.
Alors, disons... dans la plupart des cas que vous citez, les Russes ne se sont pas présentés. Devant les tribunaux arbitraux. En revanche, ils ont contesté notamment une décision d'un tribunal arbitral à Paris. Ils ont fait appel devant la cour d'appel. Essentiellement, c'est une question de réseau bancaire en Crimée qui appartenait aux Ukrainiens. Et la cour d'appel a cassé la décision du tribunal arbitral. Pourquoi ?
C'est vrai, parce que c'est l'affaire Ochad Bank, parce qu'un traité bilatéral, non seulement... s'applique sur un territoire, mais il s'applique aussi à partir d'un certain moment.
Oui.
Et la Cour d'appel de Paris, c'était la Chambre commerciale internationale, donc c'était, disons, les tops des magistrats spécialisés en arbitrage et commerce international, a relevé que les investissements dont on parle dans cette affaire, ce sont des investissements qui n'ont pas été formés après.
Ouais. Qui ne sont pas couverts par le traité.
Ils ne sont pas couverts, exactement. Ouais. C'est la chambre d'application ratione temporis, comme on dit, de façon technique. Mmh. Ce qui est assez correct.
Donc, d'un point de vue du droit, c'est correct. Sauf que l'année suivante, en 2019, la Cour de cassation va casser.
La Cour de cassation l'a cassée. C'est un peu bizarre, parce qu'en plus... Et là, considérer que, disons, la compétence des arbitres, qui normalement, surtout dans les contentieux internationaux, est une question complètement séparée des questions de fonds, fait partie des questions de fonds. Et donc, la Cour d'appel de Paris, d'après la cassation, ne devait pas se mêler avec ce choix des arbitres.
Ouais.
Mais la même chose s'est passée aussi à Genève, en fait, pour les arbitrages en Suisse, et même aux Pays-Bas, où, disons, le juge national a dit simplement, moi, je ne regarde pas ce que les arbitres ont fait, parce que les arbitres, ce qui est bien pour l'arbitrage en général, mais ça pose des problèmes si on a une guerre en cours.
Ouais. Donc, vous, ce que vous trouvez étonnant, ma dernière question, c'est qu'en effet, on a créé les tribunaux arbitraux justement pour dépolitiser les relations économiques, et là, on les a repolitisés.
On risque effectivement de les repolitiser dans un moment où l'arbitrage d'investissement est fortement contesté, pour d'autres raisons.
Oui.
On parle des crises de légitimité de l'arbitrage d'investissement. Moi, je trouve que c'est un instrument excellent de protection des petites et moyennes entreprises, évidemment, sur, en condition, en temps de paix. Mais évidemment, si on rajoute aussi cette dimension un peu bizarre de l'application pendant une guerre interétatique, on risque effectivement d'avoir des résultats politisés, parce qu'il faut prendre parti, même si on se cache derrière le technicisme du droit, et je ne suis pas sûr que cela favorise le processus de paix. Parce que normalement, une guerre se termine avec un traité de paix. Et d'ailleurs, on ne sait même pas quel sera la sorte de ces sentences arbitrales, parce que dans un traité de paix entre la Russie
oui.
Et l'Ukraine...
Est-ce que ce sera au-dessus
sera, ouais. Je crois qu'ils traiteront aussi la sorte de ces sentences arbitrales. Donc, si on a gagné 2 milliards avec ça, ce n'est pas sûr qu'on va les encasser après.
Je vous remercie beaucoup, Fabrizio Marella, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et nos podcasts. Au revoir.